Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Catherine Lara est de retour sur scène et sur disque avec Beau, une fresque musicale envoûtante qu'elle a composée et qu'elle va nous présenter dans un instant au micro de Steven Bellery. À la télévision ce soir, France 2 décline ses rendez-vous en terre inconnue en France. L'émission s'appelle Nos terres inconnues. Elle est inaugurée par le comédien Malik Bentala, invité dans les Cévennes par Frédéric Lopez. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosse. Nous n'oublierons pas nos express du jour avec Olivia Leray. Et puis la fondation Louis Vuitton à Paris dévoile une partie inédite de sa collection dans une nouvelle exposition au diapason du monde. Nous suivrons notre guide Sophie Orange qui a rencontré un des artistes exposés, le plus grand peintre japonais vivant, Takashi Murakami.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Et on commence en musique ce matin. Catherine Lara est de retour après avoir revisité ses succès à la Société Yiddish ou repris Léo Ferré. La chanteuse laisse place à la musicienne avec le projet Beau. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
C'est un voyage musical en fait à découvrir sur disque et sur scène.
Oui, l'album est sorti le mois dernier. Le spectacle se joue lui jusqu'à la fin de la semaine au théâtre 13e art. C'est un nouveau théâtre qui a Place d'Italie à Paris. Il partira en tournée à la rentrée et c'est tant mieux car Catherine Lara a imaginé une fresque d'une grande poésie.
Pour voyager sans bouger, il faut altérer les sens. Tenter de tendre vers la beauté peut faire partie de l'expérience. On peut voguer sur les mers, un vent de face face au danger et aller palper l'impalpable de nos vies.
Voix d'MC Solar en guise de narrateur d'un show protéiforme mêlant danse, cirque, théâtre et même chant. Après les projets Aral en 2000 ou Au-delà des murs il y a 9 ans, Catherine Lara signe l'une de ses plus belles partitions instrumentales. Almac, morceau d'ouverture de Beau, B-O, accent circonflexe, où Catherine Lara joue sur scène du violon. L'histoire, 10 personnages prennent le large au sens propre et figuré. Leur quête, un monde plus beau, plus juste, un ailleurs paisible. On y voit un acrobate unijambiste d'une incroyable grâce. Un artiste virevolte sur un ruban tendu sur toute la largeur de la scène. Un autre s'envole sur une barre verticale. La mise en scène de Giuliano Pepalini laisse aussi une grande place à la danse. Catherine Lara.
Il y a tout dans cette histoire. Il y a ma voix, il y a mon violon, il y a la danse, il y a les acrobaties, la poésie. Dans mon monde à moi, je voulais de la bienveillance surtout. C'est-à-dire, je voulais aborder des sujets d'aujourd'hui. On prend parti, on n'endoctrine personne. J'aime ce voyage-là parce qu'en fait, c'est une ode à la liberté de penser. On a le droit d'être différent. Oui, on parle du harcèlement, on parle de la protection sexuelle, mais on le fait avec onirisme, avec poésie. On dénonce des choses qui sont des atteintes à la liberté. Moi, je crois que je rajeunis, c'est ça le problème. Je suis avec des mômes, là. Il y en a un qui a 17 ans, ils ont 20 ans, 21. Et moi, j'ai 15 ans. Je suis la plus jeune.
Comme à son habitude, Catherine Lara offre une large place à son instrument fétiche, Steven.
Oui, le violon, fil rouge de sa carrière d'artiste, et même si elle ne prend le micro qu'une fois dans Beau pour interpréter Requiem pour un amour, titre de 1993, Catherine Lara a pensé ses compositions comme des chansons.
J'appelle ça des chansons parce que d'ailleurs il y a des couplets, des refrains. On n'est pas toujours obligé de mettre des mots sur la musique. On peut les mettre avant ou après. Quand je joue du violon, vous pouvez raconter toutes les histoires que vous voulez. Mon violon chante absolument, je dirais même mieux. Voilà. Mon violon chante vraiment. Ce sont des chansons chantées au violon. Mon violon, il s'appelle un baryton. Je suis pratiquement la seule, je crois, à en jouer. Il a été fabriqué pour moi. C'est un violon, pour ceux à qui ça pourrait parler, qui est accordé l'octave au-dessous du violon normal, ce qui fait qu'il est entre le violoncelle et l'alto. Il a un son très grave, comme ça, il est très chaud. Moi, j'aime bien les sons graves. J'avais les mains trop petites pour jouer du violoncelle, donc je m'en suis fabriqué un à ma taille et j'ai fait faire un baryton.
cette partition. Pendant près de deux heures, on est enveloppé, apaisé par la bande-son de Catherine Lara. La musicienne réussit à nous captiver avec la seule force de son violon. Depuis 2005, elle n'a plus enregistré de chansons inédites. J'ai donc demandé à la roqueuse de diamants si elle rechanterait un jour sur disque.
Alors vraiment, j'ai aucune idée. Moi, je crois que non. Oui, j'ai tourné une passe. Ça m'empêche pas de faire encore. J'ai des récitals. On vient de m'inviter à faire un spectacle à Strasbourg avec le Philharmonique et sans musicien. Je vais aller faire des spectacles comme ça où je vais chanter parce que j'adore chanter. Et je me sens très heureuse quand je chante. Mais voilà, j'irai faire des concerts, m'aller faire des disques de chansons. Non, j'ai plus envie de ça. J'ai fait un disque parce que c'était un spectacle. J'ai écrit cette musique en pensant au spectacle. Faire des choses comme ça, oui. Mais bon, j'en ai fait 24 ou 25 ou 26, je sais plus combien d'albums. Je crois que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de spectacle. Moi, j'aime le live, j'aime le spectacle vivant. Je crois que c'est ça l'avenir.
Ça s'appelle Beau, l'album vient de sortir. Le spectacle se joue au Théâtre 13e Art jusqu'à dimanche, en tournée à partir de l'automne.
Et Isabelle Morini-Bosquet, comme moi, elle trouve cet univers assez envoûtant.
Tout à fait.
On a passé un très bon moment, c'était un voyage en musique. Grâce à vous, merci Steven Bellery. Dans un instant, Daniel Darieux et Emmanuel Moire au menu des Express de Lydia Leray.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Nos Express du jour préparés par Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour.
Emmanuel Moire dévoile une chanson inédite.
Près de trois ans après l'album La Rencontre, le chanteur révélé dans Le Roi Soleil peaufine en ce moment son cinquième album, un disque qui paraîtra à la rentrée et pour lequel l'artiste de 38 ans a beaucoup écrit. Il s'est entouré des musiciens de sa dernière tournée pour enregistrer ses nouveaux titres. Emmanuel Moire présente à votre micro, Steven Bellery, le premier extrait. Et si on parlait d'amour ?
Après avoir fait quelques disques aussi, avoir raconté des choses qui étaient très personnelles, j'avais envie de quelque chose qui soit plus ouvert, qui se situe à un autre endroit. Donc musicalement, j'ai commencé avec des choses où j'avais envie que ça soit plus percussif, plus percutant, et marié avec un propos du coup. Alors là, c'est pour moi un nouveau challenge, c'est que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire et que l'écriture m'appelait depuis longtemps. Je sentais qu'il fallait que moi-même, je me lance et que j'accepte de mettre mes propres mots sur des choses que je ressens. Et du coup, je pense que j'en avais sûrement peur. Et que ce titre, pour moi, donc, parle clairement d'un constat que j'ai fait. C'est juste un constat. J'ai l'impression que les gens se parlent mal. J'ai l'impression qu'au quotidien, les gens se blessent par juste des mots et on se rend pas compte de l'impact d'une phrase. Donc ça parle pas forcément d'amour, mais quelque chose plus du domaine de la bienveillance et du respect, vivre ensemble en fait.
Et si on parlait d'amour avec des mots doux qui nous font du bien, quand plus rien ne brille autour, c'est bien le cœur qui nous rend plus humains. Et si on parlait d'amour dans les yeux, dans le creux de la main, car si tout ça nous entoure, on n'a pas peur, en tout cas un peu moins. Et si on parlait d'amour.
Notez bien ce rendez-vous, album prévu à la rentrée, tourné en 2019.
Près de six mois après la mort de Daniel Darieux, le cinéma français lui a enfin rendu hommage hier soir.
Une soirée organisée par Dominique Besnéard et le CNC au cinéma Le Max Linder sur les grands boulevards à Paris. De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement pour assister à la projection du film Occupe-toi d'Amélie, réalisé par Claude Autant-Lara en 1949. Dans l'ordre et au micro de Vincent Serrano, Dominique Besnéard, Sylvie Vartan qui avait débuté avec Daniel Darieux dans le film Patate en 1964 et Nathalie Baye, qui avait joué avec elle en 2004 dans le film Une vie à t'attendre.
Daniel est parti cet été, un peu dans l'anonymat des vacances d'été, donc je trouvais ça un peu injuste qu'on n'ait pas parlé d'elle, alors que pour moi, c'est peut-être la plus grande actrice de l'histoire de France.
Écoutez, c'était ma deuxième mère, d'une certaine manière, parce que c'était ma maman au cinéma, et j'ai le souvenir d'une femme vraiment délicieuse, prévenante, qui avait un regard très bienveillant sur moi, qui commençait. D'ailleurs, je vous ai pensé à ma vraie maman.
Je me souviens que quand on tournait ensemble, on parlait comme ça de nous, de nos vies, etc. Puis subitement, on disait, bon, les moteurs. Et puis, clac, en une seconde, on était l'une et l'autre dans nos personnages. Et puis après, on reprenait et elle était... voilà, c'était simple de travailler avec elle.
Voilà, on était heureux de pouvoir évoquer, bien entendu, Daniel Darieux avec ses trois voix célèbres, Dominique Besnéard, Sylvie Vartan pour finir,
Nathalie Baye,
mais c'était elle. Le théâtre avec deux couples inédits sur les planches la saison prochaine.
Hein. Pierre Arditi et Michel Leeb au Théâtre des Nouveautés à partir du 18 janvier. Ils vont interpréter Compromis, un texte écrit par Philippe Claudel, mise en scène Bernard Murat. Et puis au Théâtre Édouard 7, Michel Larocque et François Berléand dans Encore un instant, une pièce écrite par Fabrice Roger Lacan, mise en scène toujours signée Bernard Murat.
Merci beaucoup Olivia Leray. La télévision, on commence avec les audiences d'hier soir et Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Ça va être vite fait. Clem est en tête avec 5 millions de téléspectateurs et 20% du public sur TF1, suivi par Le Chalet qui termine pas trop mal. 3 millions de personnes étaient devant la 2, soit 12% du public. Et alors quasi égalité parfaite entre Le Monde de Jamy sur la 3 et Wild sur M6, 2 100 000 dans les deux cas. Donc M6 conserve ses fidèles. Et alors côté TNT, c'est TMC avec Le Transporteur qui est nettement en tête des audiences. 1 300 000 personnes étaient sur TMC.
Nos programmes de ce soir. Alors, on signale la série L'Arme Fatale sur TF1.
Ah, très bien.
Votre camarade Cyril Hanouna dans Maison à Vendre sur M6.
Oui,
mais la nouveauté, c'est Rendez-vous en Terre Inconnue sur la 2.
Oui, rebaptisé, vous l'avez dit tout à l'heure, Nos Terres Inconnues. Depuis 10 ans qu'il ignore, Frédéric Lopez emmène des vedettes à la découverte de peuples traditionnels luttant pour leur survie et leur tradition dans un monde en mutation. Sauf que la France, eh bien, c'est un concentré du monde. Quelle richesse géographique sur une toute petite surface. Alors, au bout d'une décennie, je l'ai bassiné avec ça. Frédéric Lopez a décidé de conduire une vedette au cœur de la France, en pleine terre sévenole. Cette vedette, c'est Malik Bentala, l'humoriste, un ultra-citadin greffé à son portable et qui regarde la famille de géniaux producteurs de châtaignes qui les accueillent, comme on regarde les pandas à Beauval, c'est-à-dire avec étonnement et fascination.
Je suis de pomme désespérée. Il a un goût de pomme, contrairement au jus de pomme que je bois.
Vous savez qu'en fait... Mon invité, il y a encore une semaine, pensait qu'il partait en terre inconnue au bout du monde.
Ah.
Quand je lui ai annoncé qu'on partait en France, à votre avis, sa réaction, c'était quoi?
Je sais pas, une déception peut-être un peu.
Je pensais partir en Amazonie, j'avais acheté des habits, mais j'avais regardé Indiana Jones deux fois.
Alors justement, ne loupez pas le début. Quand il apprend que la Patagonie ou l'Amazonie, bah, ce ne sera pas pour lui.
Ah non, mais je ne vais pas vous mentir, j'étais totalement déçu parce que je m'étais fantasmé un départ à l'autre bout du monde pendant 15 jours. J'en avais parlé à tous mes potes, à tel point que quand Fred me l'a annoncé, j'ai eu honte de leur dire. J'ai même continué à mentir à certains. Tu pars où? Je dis au Mexique. Et au final, quand il me l'annonce, ça me coupe les jambes.
Pour de vrai donc?
Ah oui, non mais totalement. Pour de vrai, j'étais très déçu. Quand vous fantasmez, il y avait un vieux campeur en bas de chez moi, je commençais à acheter des mousquetons, vraiment des doudounes et tout. Je me disais, Kev Adam, c'est parti dans une destination chaude. Donc moi, c'est forcément une destination froide. Je vais aller en Laponie, c'est sûr et tout. Et quand il me dit ça, bah, ça me coupe les jambes. Après, par la suite, je me dis, bon, Frédéric Lopez, l'émission préférée des Français, il sait ce qu'il fait, je vais me laisser porter. Et j'ai pas été déçu, bien au contraire.
C'est-à-dire que Malik, c'est quelqu'un qui refuse l'obstacle, hein, qui n'aime rien, il râle tout le temps et en même temps, il est content d'être là. C'est un concept à lui tout seul. J'ai jamais vu ça de ma vie et je vous cache pas que j'ai pari comme ça depuis des années. Et puis, il est très sensible et il écoute ce que les gens disent. Et je crois que c'est quelqu'un qui avait les mêmes valeurs. Finalement, il ne savait pas que ceux qu'on a rencontrés.
C'est exactement ça. Alors, on rit énormément. C'est franchement l'un des Terres Inconnues où on rit le plus. Notamment quand ils font du canyoning, Frédéric Lopez se souvient.
C'est vrai que c'est une scène très forte. On voit Malik complètement inquiet parce qu'on entend un cri, c'est le mien. Effectivement, l'eau est à 12 degrés. On fait du canyoning à 12 degrés. D'ailleurs, même l'instructeur ne l'avait jamais fait. On s'enfonce comme ça dans des trucs qui font flipper. Donc, effectivement, c'est horrible. Et là, on voit Malik comme dans la salle d'attente des dentistes. C'est-à-dire qu'il dit oh purée, c'est bientôt mon tour. Je vous conseille d'aller voir son spectacle parce que j'ai pari comme ça depuis des années. Le tube de son spectacle, c'est ce qu'il y a sur Terre Inconnue. Au début, j'étais pas rassuré parce qu'il aimait rien. Et après, je trouvais ça super en fait, qu'il aime rien parce qu'on riait beaucoup. Malik, il est anxieux comme tous les humoristes. D'ailleurs, on va dire ça comme ça. Le plus grand drame de ma vie, c'est qu'on avait 150 heures de rush et il y avait 150 heures de van à couper. C'était horrible. J'avais toujours rêvé de l'emmener et je me suis dit, est-ce qu'il a assez le sens de l'autodérision quand il va apprendre qu'il part pas au bout du monde? Je prenais un risque énorme qu'ils me disent non. Et là, une semaine avant le départ, j'étais mal. Hein. Donc, il fallait être à la hauteur. Le charme opère et franchement, c'est un petit miracle parce que pour toute l'équipe, on savait pas du tout ce que ça allait donner.
Alors moi j'ai été surprise d'entendre ce garçon pudique qui n'évoque jamais sa famille, justement raconter avec émotion son père dès le premier soir. Alors est-ce que c'était une sincérité de comédien ou une sincérité garantie grand âme?
La preuve, il n'y a pas de larmes à la fin. Tout ce que je vis est totalement naturel parce que l'équipe m'a mis à l'aise. C'est des cascadeurs hors pair parce qu'ils font en sorte d'être cachés. Ils n'existent pas. Et je me demande comment ils font pour choper des images aussi magnifiques. Ils sont là sans jamais être là. Et Fred a été tout de suite réceptif à mes vannes. Et moi c'est comme ça que je teste la complicité. Je fais une vanne, s'il est réceptif, je vais être totalement naturel. Si on n'est pas en wifi, je vais me fermer. Moi, je suis très pudique. On n'a jamais vu ni mon père ni ma mère. Et là, spontanément, j'ai senti le besoin d'en parler. Parce que j'ai imaginé mon père voir l'émission et je savais que ça lui ferait plaisir. Si j'avais voulu surjouer, jouer, on le sent. Et que c'est fidèle à ce que je suis. Les vannes que je les sors parce que je passe un moment magnifique. Je me suis vraiment reconnu à travers la famille Châtaigne parce qu'elle ressemble à ma famille, ils ont les mêmes valeurs. On a eu des vraies discussions, que ce soit sur la nature, des discussions sur la spiritualité aussi. Je n'avais absolument aucune idée de ce que signifiait pour eux un épisode Cévenol, c'est-à-dire que c'est important qu'il y en ait régulièrement pour leur récolte. C'est super jouissif de voir des gens qui sont super contents quand il pleut. C'est génial.
Oui, ben moi aussi, tiens. Alors, un épisode Cévenol, c'est plusieurs jours de pluie consécutifs pour essayer. Dieu sait que c'est important et que c'est bien. Et l'importance de ce séjour en France, c'est qu'il n'y a pas eu besoin de traducteurs, parce que Frédéric Lopez emmène toujours deux traducteurs, oui. Ce qui fait que pour des humoristes, ça réduit beaucoup l'impact des vannes qui sortent sur place là-bas, à l'autre bout du monde. Alors que lui, là, tout était efficace au premier degré comme au second.
C'est un
excellent premier Notaires Inconnus. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Merci. Merci Isabelle Morelli-Bosse. Dans un instant, nous vous mettons au diapason du monde. Ce sera avec Sophie Orange à la Fondation Louis Vuitton.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
C'est l'un des grands rendez-vous de ce printemps au diapason du monde, la nouvelle exposition de la Fondation Louis Vuitton. À partir d'aujourd'hui à Paris, Bernard Arnault présente les dernières acquisitions en fait de sa collection. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Faites-nous découvrir toutes ces œuvres que vous avez vues en avant-première.
Au total, une soixantaine d'œuvres réparties sur 4 étages, 28 artistes, des stars, Matisse, Giacometti, Yves Klein, et des artistes contemporains moins connus, Annick Aouy ou Cyprien Gaillard. Et au dernier étage, tout en haut, juste à côté des terrasses qui surplombent le bois de Boulogne, le grand maître japonais Takashi Murakami. Vous allez me dire quel point commun entre tous ces artistes, bien justement, c'est d'être au diapason du monde, à l'unisson ou en dissonance, mais chacun joue sa partition à son rythme. Et celle qui en parle le mieux, c'est Suzanne Pagé, la directrice de la Fondation Vuitton. Elle parcourt le continent à la recherche d'artistes, de coups de cœur. C'est elle, l'œil de Bernard Arnault.
Les artistes sont à l'écoute du monde et il y a quelque chose de musical, de vibratile. L'homme réalise aujourd'hui qu'il n'est pas le seul partenaires dans le monde, et avec le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, vidéo, peinture, sculpture, installation, hologramme, etc. Les artistes aujourd'hui utilisent toute la panoplie d'expressions contemporaines. Nous ne sommes plus à la Renaissance, essayons d'être de notre époque.
Avec, j'imagine, des œuvres déroutantes.
Oui, comme ce cheval suspendu au plafond ou ce film en 3D sur le génome à regarder avec des lunettes spéciales. Les goûts du maître des lieux, Bernard Arnault, sont assez éclectiques, mais vous serez submergé d'émotions devant un ensemble de sculptures de Giacometti, notamment La Grande Femme. C'est simple, hein, c'est la plus grande œuvre jamais réalisée par le sculpteur. Et La Femme de Venise, exposée pour la première fois, ne manquait pas également L'Homme qui chavire. Tourner autour, marcher doucement et soudain dans la même perspective, les bras dans le même mouvement, accrochés au mur un peu plus loin, un collage de Matisse, nu bleu au bras vert, comme si les œuvres se répondaient.
J'entends des clochettes, oui. Un peu lancinantes, de quoi s'agit-il ?
La musique des âmes, quand même. Hein.
Oui, alors quand même, ça, c'est. Là, on s'élève, si
en
je puis
fait,
dire.
Ce sont des clochettes japonaises qui bougent dans le vent. Une magnifique œuvre d'art signée Christian Boltanski. 400 clochettes japonaises installées par l'artiste il y a 4 ans dans le désert d'Atacama, dans le nord du Chili. L'œuvre a sans doute disparu aujourd'hui. Animitas était conçue pour être éphémère, mais une vidéo nous transporte à 4000 mètres d'altitude. Le plan est fixe, la caméra ne bouge pas, et finalement, le spectateur non plus. Comme si l'on comprenait, sans le savoir, ce qui se jouait ici, un désert dans lequel Pinochet jetait ses prisonniers. Des mères, des femmes, des veuves viennent à la recherche d'ossements, un pèlerinage, animitas, petite âme, des âmes errantes et le grand talent de Boltanski qui s'adresse aux spectateurs que nous sommes.
Ils entrent là, ils ne comprennent pas très bien ce que c'est, mais ils savent que c'est un moment où ils peuvent réfléchir sur eux et sur le monde. Et puis on retourne dans la vie.
Et on se prend dans la figure quand même en sortant de la salle de projection. 5 lettres rouges sang en tube de néon. Après, Christian Boltanski parle bien sûr de la mort, mais chez les Chinois, dit-il dans un sourire, le rouge est la couleur la plus optimiste du monde.
Mais le grand invité de cette exposition, c'est donc Takashi Murakami, devenu l'un des artistes les plus chers au monde.
Grand personnage de l'art contemporain, une star, barbichette, chignon, lunettes rondes, veste et baskets improbables. Takashi Murakami est exposé dans la cathédrale, c'est le nom du très grand espace tout en haut au deuxième étage de la fondation. Murakami, c'est un mélange de sombre et de merveilleux, de technologie et de références ancestrales, inspiré des mangas, mais aussi, c'est le paradoxe de la peinture japonaise du 18e et du 19e siècle. Derrière les couleurs gaies, les fleurs sont voraces, les dents sont acérées. L'artiste japonais présente à la Fondation pour la première fois une fresque de 35 mètres, impressionnante. Elle met en scène 8 personnages de la mythologie chinoise entourés d'une faune et d'une fleur merveilleuse, une œuvre marquée par le tsunami. Un peu dans son monde, Murakami répond aux questions en fermant les yeux.
Après la catastrophe qu'on a connue au Japon en 2011, j'ai enfin compris ce qu'est la religion pour les Japonais. Voilà ce que j'ai voulu exprimer dans cette fresque.
Murakami, plus grave qu'il n'y paraît. En fait, c'est une équipe de 200 personnes au service de cet artiste. Notre esprit occidental ne comprend peut-être pas tout, mais ce n'est pas grave, allez-y, affrontez les œuvres, comme le dit Suzanne Paget, la directrice artistique.
Voyez et ressentez. Une œuvre d'art, c'est quelque chose de physique. C'est pour ça que Diapason, ça a quelque chose de vibratoire. C'est quelque chose qui passe par la sensibilité, le feeling.
Et surtout, n'hésitez pas dans chaque salle à aller voir les médiateurs culturels qui répondront à toutes vos questions. Il faut ressentir, vibrer avec ces œuvres comme un diapason.
Au Diapason du Monde, jusqu'au 27 août à la Fondation Vuitton. Merci beaucoup Sophie Orange. Dans
RTL.
Un instant, pardonnez-moi, je vais vous donner l'heure, allez-y.
Oui, c'est vrai. Voilà. Il est 9h26, il faut le dire.
Dans un instant, on se dit au revoir et on accueille Julien Courbet. On a passé un excellent moment. On est ravis d'accueillir Sophie Orange dans l'équipe désormais.
Eh ben, je suis ravie aussi.
Puisque vous relevez le challenge de succéder à Monique Younes pour nous parler notamment des arts et des expositions. Merci à toute l'équipe. On va maintenant retrouver Julien Courbet.
Eh bien, écoutez, moi je suis là et tout va bien. Il y a deux fois, vous voyez, il ne faut pas chercher à faire compliqué.
Non, non, il faut faire simple.
Je suis tout à fait. Voir sobre. Fais sobre. Oui. Laisse faire les choses. Ne cherche pas à en faire des tonnes. Et tu vas voir, ça va bien se passer.
Et c'est là que ça commence.
Et ça paie.
Non, non, mais et d'ailleurs, vous créez la surprise.
Exactement, c'est ça. On se dit, merde, qu'est-ce qu'il va faire
aujourd'hui ? On se dit, qu'est-ce qu'on n'a pas compris ? Il y a une blague, forcément.
Mais vous voyez, mine de rien, on a tenu 20 secondes. Donc, on a bien fait de le faire. On
c'était magnifique.
Demain.
Je vous souhaite une très belle émission.
À demain,
allez, sobre, les petits gars.
Ah oui, on va être sobre.
À l'américaine.
Exactement.